Vous écoutez, on lit pour vous.
Visées parce qu'elles sont jeunes. Un texte de Marie-Ève Maurras, paru le 8 mai 2025 dans la presse. Elles se font détailler des pieds à la tête, siffler, sont l'objet de remarques à caractère sexuel. Pour bien des adolescentes qui se déplacent en ville, ces comportements sont une banale réalité. Le harcèlement de rue est tellement répandu que de plus en plus de chercheurs s'y penchent. Quand ils sont en groupe ou en voiture, ils vous chassent. Les adultes de 30, 40 ans, c'est gênant. Surtout dans le bus, ils nous regardent, nous sourient. C'est l'heure du midi aux abords d'une grande école secondaire de Montréal et trois adolescentes de 16 ans reviennent de dîner. Le harcèlement de rue, elles disent en vivre depuis plusieurs années, de la part des garçons de leur âge, mais aussi d'hommes plus âgés, bien sûr. Les jeunes filles qui se font interpeller par de purs inconnus dans les lieux publics sont nombreuses, mais les initiatives pour documenter ce qu'elles vivent au Québec sont rares. Doctorante en sociologie à l'Université du Québec à Montréal, UQAM, Mélusine Dumerchat est l'autrice d'une recherche sur le sujet. Elle a organisé plusieurs groupes de discussion dans le cadre de ses travaux. Pour les jeunes filles, c'est évident. Elles sont harcelées parce qu'elles sont jeunes, dit Mme Dumerchat. En juin 2023, la Ville de Montréal, la Société de transport de Montréal, STM, et le service de police de la Ville de Montréal, SPVM, ont lancé une campagne de publicité contre le harcèlement de rue appelé « Témoins agissons ». Dans le métro et les autobus, mais aussi par l'entremise d'un site Internet, la STM incitait les citoyens à ne pas rester quoi face aux situations de harcèlement dont ils étaient témoins. Cette campagne, qui est toujours visible, faisait suite à une étude menée par le Centre d'éducation et d'action des femmes de Montréal, CEAF, et l'UQAM, qui avait conclu en 2022 que deux Montréalais sur trois avaient subi du harcèlement de rue au cours de l'année précédente. L'Institut national de santé publique du Québec mène actuellement une toute première étude sur le sujet, mais l'équipe préfère ne pas discuter de ses travaux avant publication, nous indique-t-on. Des violences banalisées. Dans le bus ou le métro, sur le trottoir, à la sortie de l'école, dans les parcs ou au centre commercial, à toute heure du jour, les victimes mineures de harcèlement de rue sont tantôt interpellées, tantôt sollicitées, insultées, la cible de propos sexualisants ou paternalistes, dit Mélusine Dumerchat. Des jeunes rapportent aussi des attouchements, de l'exhibitionnisme et du voyeurisme. Or, ajoute Mme Dumerchat, les propos des jeunes sortent des représentations sensationnalistes qu'on peut avoir des auteurs de violences pédocriminelles. Pour elle, ces violences sont relativement courantes et commises par un peu monsieur tout le monde. Elles passent par des propos et des gestes qui peuvent être quotidiens, dit la chercheuse. C'est normalisé, disent d'une seule voix les trois adolescentes rencontrées par la presse. C'est une réalité, la société ne prend pas ça à cœur ou au sérieux, déplore l'une d'elles. Ces violences peuvent néanmoins être qualifiées de pédosexuelles parce que ce sont des violences à caractère sexuel et ça concerne des adultes vis-à-vis de jeunes, dit Mélusine Dumerchat. Les harceleurs savent qu'elles sont jeunes, parce que plusieurs rapportent avoir été harcelées alors qu'elles étaient en uniforme scolaire, par exemple, explique la chercheuse. Le SPVM rapportait récemment avoir identifié des hommes qui filmaient des écolières dans le métro à leur insu, sous leur jupe. Fiche-moi la paix! Face à de nombreux témoignages de jeunes qui rapportaient avoir vécu du harcèlement de rue, la Maison des jeunes de Bordeaux-Cartierville a mis sur pied le projet « Fiche-moi la paix » dans le cadre duquel des intervenantes vont visiter des écoles secondaires du quartier. On leur donne plusieurs pistes, dont celle de ne pas avoir peur de parler. On rappelle que si elles ne se sentent pas en sécurité, il y a des gens autour d'eux, par exemple dans l'autobus, on peut aller vers le chauffeur ou parler plus fort pour avoir l'attention de gens autour, illustre Sarina Kumari, coordonnatrice de la Maison des jeunes. La jeune femme de 26 ans a elle-même vécu du harcèlement lorsqu'elle était adolescente. « Je ne veux pas que les jeunes filles aient à vivre ça », dit-elle. « Je le banalisais beaucoup, mais plus j'en parle, plus je réalise que ce n'est pas normal. Je suis une fille, je veux juste prendre l'autobus, me déplacer. C'est une injustice. » Face au harcèlement qu'elles subissent, plusieurs victimes se taisent. Je le vois à répétition. Les jeunes ne veulent pas en parler à leurs parents parce qu'elles vont avoir des conséquences, dit Roxane Deniger, organisatrice communautaire au Centre d'éducation et d'action des femmes de Montréal. Tu ne sortiras pas. Tu ne sortiras pas seule. Tu vas te rapporter. Tu ne te maquilleras pas. Tu ne t'habilleras pas de telle façon. On pénalise beaucoup les victimes de harcèlement de rue. Et les harceleurs peuvent agir en toute impunité, ajoute-t-elle. Dans ces situations, les parents font ce qu'ils peuvent, dit Mélusine Dumerchat. Les victimes aussi. Elles vont mettre tout un tas de pratiques en œuvre pour éviter d'être harcelées, comme si le harcèlement était dû à leur comportement. À long terme, ça va avoir pour effet de restreindre leur autonomie. Elles vont très tôt développer un rapport anxieux à l'espace public qu'elles ne vont pas s'approprier librement. Roxane Deniger dit qu'il faut que le discours autour du harcèlement de rue change et que les initiatives pour le contrer, comme le projet de la Maison des jeunes de Bordeaux-Cartierville, soient mises en valeur. Souvent, la question c'est « Qu'est-ce que les victimes peuvent faire ?» Mais ça fait des années que les femmes et les filles, on porte ça sur notre dos. Moi, je dis « Qu'est-ce que la société peut faire ?» demande-t-elle. Quand le harcèlement de rue devient criminel. Les victimes de harcèlement de rue portent rarement plainte, mais certaines actions sont criminalisées, rappelle Roxane Deniger, organisatrice communautaire au Centre d'éducation et d'action des femmes de Montréal. Une agression à caractère sexuel, c'est criminel. Fixer quelqu'un du regard, ça ne l'est pas. Siffler quelqu'un, ça ne l'est pas. Dans le code criminel, il n'y a pas harcèlement de rue. Au cours des dernières années, les corps policiers ont procédé à l'arrestation d'hommes qui harcelaient des femmes dans la rue ou filmaient en cachette sous les jupes, une pratique qui porte même un nom, le photovoyeurisme ou « upskirting » en anglais. En 2021, par exemple, Simon Lamarre, un Montréalais qui enseignait dans deux universités, a plaidé coupable à une accusation de voyeurisme pour des crimes commis entre 2017 et 2020. L'homme filmait les entrejambes d'adolescentes et de jeunes femmes dans des endroits publics, notamment le métro de Montréal. Oui, mais en France. Se faire draguer, siffler, suivre. Le phénomène du harcèlement de rue est beaucoup plus marqué en France et dans d'autres pays qu'au Québec. Sana Chourouhou, intervenante à la Maison des jeunes de Bordeaux-Cartierville, dit qu'à Bruxelles, où elle a vécu, c'est la norme. « Tu te fais aborder tout le temps », dit-elle. « Il ne s'agit pas de se comparer à pire », dit toutefois Roxane Deniger du CEAF. « Il ne faut pas que ce seuil de tolérance dit « Ah, nous, c'est correct », illustre-t-elle. « On ne veut pas que ça devienne plus gros ». En savoir plus. Source, rapport de recherche sur le harcèlement de rue à Montréal, Université du Québec à Montréal et Centre d'éducation et d'action des femmes de Montréal, 2022. 70%. Proportion de femmes de plus de 18 ans qui, en 2022, disaient avoir été victimes de harcèlement de rue dans la dernière année. 50%. une personne sur deux qui se souvient d'avoir été victime de harcèlement de rue situe l'événement avant ses 18 ans. C'était, visé parce qu'elles sont jeunes, un texte de Marie-Ève Maurras, paru le 8 mai 2025 dans La Presse.
Changer le pare-brise de l'œil, un texte de Marie-Ève Cousineau, paru le 3 mai 2025 dans La Presse. Imaginez un pare-brise embué parce que le ventilateur de la voiture ne fonctionne pas, ou un pare-brise tellement craquelé qu'on voit à peine à travers. Voilà à quoi ressemble la cornée malade d'un œil qui requiert une greffe. Ce qu'il faut savoir, environ 1000 greffes de cornée sont effectuées chaque année au Québec grâce aux dons de patients décédés. Deux banques Dieu, l'une à Montréal et l'autre à Québec, analysent les tissus et les préparent pour la greffe. Emma Québec cherche toujours des donneurs. Pour répondre à la demande, elle doit acheter 25 % des cornées aux États-Unis. La compatibilité du donneur et du receveur n'est pas un enjeu pour ce genre de greffe. Flavie Camiran avait un pare-brise du genre. La surface avant de son œil droit, la cornée, n'était plus claire et transparente. « Je n'avais pas juste une vue embrouillée », raconte l'avocate de 30 ans. « Je ne pouvais même pas dire le nombre de doigts devant moi à 2 cm. C'était comme un flou généralisé blanc. » C'était en 2013. La jeune femme est alors âgée de 18 ans. Son œil droit est pris d'assaut par une kératite à Acanta moeba, une infection parasitaire rare. Une amibe s'est comme installée dans mon œil à cause du port de verre de contact, explique-t-elle. Après un traitement agressif, Flavie Camiran doit subir une greffe de la cornée, une intervention d'environ 1 heure qui changera sa vie. « J'ai une vue parfaite, » dit-elle. En fait, une vue parfaitement normale. Elle demeure myope et porte des lunettes. Mais plus de verre de contact. Deux banques Dieu au Québec. Environ 1000 greffes de cornée sont effectuées chaque année au Québec grâce aux dons de patients décédés. Deux banques Dieu, l'une à Montréal et l'autre à Québec, reçoivent les tissus et les préparent pour la greffe. Il y a toujours quelqu'un de garde 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au cas où quelqu'un se perfore un œil, par exemple, indique Manon Charret, l'une des 4 spécialistes à la Banque Dieu du Québec, située à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, à Montréal. Les cornées des donneurs sont conservées dans un réfrigérateur. Les cellules sont bonnes, maximum 14 jours, mais il faut que ce soit greffé idéalement en dedans de 7 jours, précise Manon Charret. Les tissus sont scrutés à la loupe afin de déterminer s'ils se qualifient pour une greffe. Le dossier médical du donneur est pris en compte. Grosso modo, 50 % sont rejetés, estime Manon Charret. Plusieurs raisons peuvent expliquer ces rejets. La cornée contient trop peu de cellules. Le minimum acceptable est de 2165 par millimètre carré. Elle porte les traces d'une cicatrice. Le donneur était atteint d'une maladie infectieuse transmissible, comme le VIH et les hépatites B et C, etc. Si la cornée n'est pas bonne pour la greffe, elle peut être bonne pour l'enseignement et la recherche, dit Mme Charret. Il faut toutefois avoir consenti à faire un don pour cette éventualité. À la recherche de donneurs, vu le nombre de rejets Emma Québec est toujours à la recherche de donneurs. Selon l'organisme sans but lucratif, les deux banques Dieu fournissent aux centres hospitaliers environ 75 % des cornées qui sont greffées. Quant aux 25 % restants, Emma Québec les achète sur les marchés étrangers, c'est-à-dire aux États-Unis. La disponibilité des cornées ne contribue nullement à d'éventuels délais d'attente avant opération, précise sa porte-parole Josée Larrivé. La compatibilité du donneur et du receveur n'est pas un enjeu pour les greffes de cornées. On est dans un site privilégié parce qu'il n'y a pas de vaisseau sanguin, explique la docteure Michèle Mabon, directrice médicale de la Banque Dieu du Québec. Les vaisseaux sanguins représentent une route directe vers le système immunitaire. Le fait que le tissu ne contient pas de vaisseaux, juste cela diminue le risque de rejet. Le rejet demeure possible, mais il est traitable, précise-t-elle. Carole Francis, spécialiste à la Banque Dieu du Québec, encourage la population à faire don de ses cornées. Souvent, les patients, ils se disent « Oh, mais j'ai eu une opération LASIK pour corriger la myopie, je ne peux pas donner. » Non, vraiment, il n'y a pas de contre-indication. Les gens ayant subi une opération de la cataracte ou pour le glaucome peuvent aussi faire don de leur cornée à leur mort, souligne-t-elle. Ça se peut que la cornée soit encore en bon état et qu'elle permette à un patient de retrouver sa vue d'avant. Problème pouvant mener à une greffe. Anomalie de la courbure de la cornée, comme un kératocone, cicatrice à la cornée, secondaire à une infection chez les porteurs de verres de contact, cicatrice secondaire au virus de l'herpès simplex, le même qui provoque des feux sauvages dans la bouche ou au visage, maladie héréditaire de la cornée, un traumatisme comme une aiguille à tricoter dans l'œil. C'était « Changer le pare-brise de l'œil », un texte de Marie-Ève Cousineau, paru le 3 mai 2025 dans la presse.
On sait quand Néandertal et Homo sapiens se sont métissés. Un texte de Bruno Lamollet, paru le 17 avril 2025 dans le magazine Québec Science. Selon deux études portant sur de l'ADN ancien, Néandertal et Homo sapiens se sont métissés pendant quelques milliers d'années il y a environ 47 000 ans. C'est connu. Un groupe d'Homo sapiens qui a quitté l'Afrique il y a entre 50 000 et 70 000 ans s'est métissé avec des clans néandertaliens déjà installés en Europe. À preuve, le génome des populations non africaines actuelles contient encore jusqu'à 2 % d'ADN néandertalien. Mais quand exactement ces rencontres ont-elles eu lieu? Des études menées par deux équipes internationales, publiées en décembre 2024 dans Nature et dans Science, apportent chacune de leur côté la même réponse. Il y a environ 47 000 ans. Pour établir cette date, les équipes ont utilisé le même type d'analyse d'ADN, mais avec des sources différentes d'ADN d'Homo sapiens. Dans Nature, les scientifiques ont dévoilé la plus vieille séquence d'ADN jamais obtenue pour des ossements d'Homo sapiens. Vieux de 45 000 ans, ils appartenaient à 6 individus retrouvé dans une grotte en Allemagne et à un autre recouvré dans une grotte en Tchéquie. Dans Science, L'équipe a analysé l'ADN de 59 fossiles de sapiens ayant vécu entre 45 000 et 2 200 ans avant aujourd'hui, ainsi que celui de 275 individus actuels. Dans chaque génome sapien examiné, les équipes ont d'abord cherché des sections d'ADN néandertaliens. Puis, elles ont estimé le nombre de générations qu'il a fallu pour que les chromosomes néandertaliens originels se fragmentent ainsi au sein de ce génome sapiens. C'était calculable, car les fragments d'ADN néandertaliens se morcellent davantage à chaque génération. Enfin, les scientifiques ont additionné la durée correspondant à ce nombre de générations à l'âge du fossile ou de l'échantillon pour obtenir la date du métissage. C'est sûr que l'hybridation ne s'est pas faite en une nuit. Lance Hélène Rougier, paléo-anthropologue à l'Université d'État de Californie à Northridge, et signataire de l'étude de Nature. En fait, les groupes néandertaliens et ceux d'Homo sapiens se seraient métissés au cours d'une période s'étendant jusqu'à 7000 ans, mais ancrés autour de moins 47 000 ans. Selon la chercheuse, la période du métissage aurait même pu être plus courte, environ 1500 ans. Néandertal et Homo sapiens ont-ils eu des relations à long terme ou des histoires d'un soir, consenties ou non? On ne le saura fort probablement jamais. Ces études révèlent aussi que les populations non africaines actuelles descendent de ce groupe d'Homo sapiens hybridés il y a environ 47 000 ans. Il s'est donc métissé avant sa dispersion en Eurasie, probablement au Proche-Orient. Autre conclusion, les ancêtres de ce groupe auraient quitté l'Afrique il y a environ 50 000 ans. La sélection naturelle en action. D'après l'examen d'ADN de fossiles sapiens âgés d'au moins 40 000 ans et retrouvés d'un bout à l'autre de l'Europe, de grands pans d'ADN néandertaliens ont été rapidement éliminés du génome sapiens peu après le métissage, tandis que d'autres se sont rapidement propagés. Les gènes disparus ont dû nuire aux chances de survie de leurs nouveaux propriétaires, tandis que les bénéficiaires de l'ADN conservé ont hérité de gènes néandertaliens qui leur ont vraisemblablement permis de s'adapter à leur nouvel environnement et de s'y épanouir. Note dans un communiqué Leonardo Iassi, paléogénéticien à l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutive à Leipzig, en Allemagne, et co-signataire de l'article de Science. Parmi les gènes retenus, certains jouent un rôle dans le système immunitaire ou le métabolisme. Bref, Homo sapiens a profité des millénaires d'adaptation de Néandertal à l'environnement européen, notamment à un climat plus froid qu'en Afrique. Merci Néandertal! C'était « On sait quand Néandertal et Homo sapiens se sont métissés. » Un texte de Bruno Lamollet, paru le 17 avril 2025 dans le magazine Québec Science.
La TELUC voulait continuer à contourner les règles. Un texte de Marie-Michel Sioui, paru le 11 avril 2025 dans Le Devoir. L'ex-directeur général de la TELUC, Martin Noël, a proposé à de hauts fonctionnaires de continuer de contourner la loi afin que des étudiants obtiennent des prêts et bourses, même s'il avait été avisé que cette pratique n'était pas conforme à la loi. Une série de correspondances obtenues par Le Devoir font état de cette proposition étonnante. Dans une lettre envoyée à M. Noël le 20 juillet 2018, le sous-ministre adjoint à l'aide financière aux études, Jean-Claude Labelle, ramène l'université à l'ordre. « Nous avons été informés que la TELUC confirme l'admission des étudiants dans des programmes de baccalauréat où ils poursuivent des études à temps plein alors qu'ils sont admis à la TELUC dans des programmes courts où ils étudient à temps partiel », écrit M. Labelle. Il fait ensuite référence à une personne qui nous a demandé, lors de notre entretien téléphonique, s'il était possible de continuer cette pratique pour la prochaine session. Le nom de la personne en question a été caviardé par le ministère de l'Éducation, à qui Le Devoir a demandé les échanges. M. Noël n'a pas souhaité répondre aux questions du Devoir à ce sujet, en rappelant avoir signé une entente de confidentialité dans cette affaire, pour laquelle il a été dédommagé à hauteur de 260 000 $ par l'Université du Québec. Plaider l'ignorance. Dans une autre lettre datée du 26 juillet 2018, M. Noël fait clairement état de ses intentions de continuer à contourner la loi. Il écrit alors au sous-ministre adjoint à l'enseignement supérieur, Simon Bergeron, et fait état d'une problématique importante. Il affirme que 440 étudiants ont eu la promesse de suivre un programme en français ou anglais langue seconde et demande au ministère de considérer leur situation sous les mêmes modalités que précédemment. Le directeur général de la TELUC dit comprendre les règles de financement, mais plaide l'ignorance. Historiquement, ce n'était pas une information connue de la TELUC et c'est pour cette raison que, en toute collaboration, nous allons rapidement faire des ajustements, assure-t-il. Un mois plus tôt, le 15 juin 2018, M. Noël avait notamment été avisé par la sous-ministre Sylvie Barcelot du fait que l'entente entre la TELUC et MATQI était soumise à la loi sur l'aide financière aux études. Ainsi, je vous invite à la plus grande vigilance avant la conclusion de toute entente afin d'assurer la conformité au cadre légal et réglementaire en cours, avait-elle suggéré. C'était « La TELUC voulait continuer à contourner les règles », un texte de Marie-Michèle Sioui, paru le 11 avril 2025 dans Le Devoir.